Bienvenue dans le podcast de Devoteam Revolve, le podcast qui questionne notre rapport à la technologie. Nous luttons contre les raccourcis intellectuels, proposons des alternatives, challengeons nos pratiques et cherchons à provoquer une réaction. En ce sens, nous entreprenons. Tout d'abord, bonjour Pauline.
Bonjour Eva.
Bonjour Vincent.
Bonjour Eva.
Et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce temps d'échange autour du passage de certification chez Devoteam Revolve. Pour rappel, le podcast d'aujourd'hui s'inscrit dans Gravity, qui se veut être un lieu de réflexion autour des enjeux majeurs de notre société, avec pour axe central la technologie. Donc bonjour Pauline et Vincent, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce temps d'échange, je l'ai dit, autour du passage de certification. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ?
Donc moi c'est Pauline, ça fait 10 ans que je travaille chez D2SI, maintenant Devoteam Revolve. J'ai un parcours de consultante, donc j'ai fait une formation en système et réseau. Et aujourd'hui, je m'occupe des différentes plateformes de l'entreprise.
Bonjour, moi c'est Vincent, j'ai un profil reconverti. J'ai une formation initiale en écologie évolutive. Et après un doctorat sur une passion de jeunesse, les plantes carnivores, je me suis reconverti dans l'informatique. Et voilà, et l'an dernier, je me suis auto-formé pendant un an pour rejoindre les technologies du cloud et ça fait depuis le 1er mars que je suis chez Revolve.
Bienvenue.
Merci.
Alors du coup, je pense que vous l'aurez compris, mais aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui nous tient vraiment à cœur chez Revolve, qui est le passage de certification. Donc histoire de se mettre directement dans le bain, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'une certification ?
Alors, une certification, c'est un examen qui se passe sur un laps de temps imparti avec un nombre de questions sur un sujet précis où on a à l'avance les sujets abordés pendant l'examen qui permet d'attester qu'on a compris et maîtrisé le sujet abordé pendant l'examen.
Ok. Et du coup, personnellement, il me semble que vous avez pas mal de certifications, notamment Vincent ici présent.
Moi, ce jour, j'en ai 21.
Et du coup, ce qui est marrant, c'est que t'es pas du tout du milieu de l'IT. Donc, c'est vrai que des certifications, c'est quand même très technique la plupart du temps. Donc, on va détailler tout à l'heure un peu les modalités des différentes certifications. Mais en l'occurrence, c'est vrai que toi, comment t'as pu appréhender le passage de certification, justement ?
En fait, c'était... Moi, j'ai trouvé ça plutôt facile dans le sens où ça propose un parcours. Donc, du coup, des cibles identifiées. Je trouve ça très difficile d'arriver sur un environnement et sans avoir de périmètre défini. Tu vois, par quoi tu commences, par quoi tu continues, comment tu rebondis. Enfin, ça, pour moi, c'est un petit peu inconfortable. L'avantage des certifs, c'est que c'est vraiment un périmètre défini avec, tu vois, des techs, des parcours, des cours même sur différentes plateformes. Donc, finalement, une fois que j'ai pigé le truc, après, j'ai réappliqué la formule.
Et hop, ça est parti tout seul.
Et après, voilà.
Mais du coup, Pauline, toi qui as une formation plus technique, du coup, si tu confirmes, du coup, si tu veux dire le nom de ta formation, peut-être ?
Ingénierie, système et réseau.
Ok. Pour toi, c'était peut-être plus évident, entre guillemets, de passer une certification, c'était plus intuitif ?
Je ne sais pas si c'était plus intuitif, mais en effet, c'était un sujet sur lequel j'étais un peu plus à l'aise, peut-être que quelqu'un qui commence de zéro. tout ce qui, finalement, on a le background technique qui fait que c'est plutôt le sujet spécifique de la certification qu'on travaille, alors que quand on part de zéro, il faut aussi comprendre les fondamentaux sur lesquels se base la certification. Et donc le travail est un peu plus important au départ, je pense.
Pour rebondir là-dessus, moi j'ai trouvé ça chouette les certifs parce que c'était une manière aussi d'apprendre les bonnes pratiques dans le milieu de l'informatique. Vu que j'avais eu qu'une petite formation de reconversion, passer les certifs c'était une manière voilà, d'avoir un premier background, on va dire propre, entre guillemets, par rapport à peut-être des pratiques qui sont devenues un peu plus obsolètes aujourd'hui.
Une sorte de remise à niveau.
Voilà, moi j'ai eu la mise à niveau.
Dans le sens là. Mais du coup, peut-être que vous pouvez nous parler un peu de quel est l'intérêt de passer une certification, pourquoi en passer et justement pourquoi c'est autant mis en avant chez Devoteam Revolve.
Alors la certification, il y a plusieurs points de vue. D'un point de vue personnel, donc une certification appartient à la personne qui la passe, elle appartient pas à l'entreprise. Je pense qu'il faut l'utiliser comme un tremplin, que ce soit quand on commence sur un sujet, ça permet de montrer qu'on a fait l'effort de travailler ce sujet, d'approfondir, de... C'est, enfin, passer une certification, c'est un effort qui est non négligeable. Il faut se lancer. Il y a tout un parcours d'apprentissage à suivre. L'examen lui-même est un challenge. Le temps de par question est assez court, donc c'est un peu un marathon. Mais l'intérêt, c'est de l'utiliser comme un tremplin si on a envie d'évoluer sur certaines technologies. Ça permet de montrer aussi qu'on a fait l'effort de passer cet examen, d'approfondir le sujet, de montrer sa motivation à vouloir travailler sur tel ou tel sujet. Et pour l'entreprise, c'est important aussi parce que ça renforce le partenariat avec le partenaire. Donc dans notre cas, AWS, ça montre que nos consultants et même la structure, on a des personnes de la structure qui passent certaines certifications, montrent qu'on est attentif et assidu à l'exercice et ça renforce le partenariat pour aussi, ça nous permet d'aller chercher d'autres sujets chez certains clients. Si par exemple on a plusieurs consultants qui sont certifiés sur un sujet spécifique, par exemple le machine learning, le partenaire va penser plus rapidement à nous pour nous présenter auprès du client. Donc ça permet aussi à l'entreprise d'aller chercher des sujets sur lesquels on n'était pas forcément parfois visible auprès des clients et donc aux consultants de travailler sur des projets sur lesquels ils ont envie parce qu'ils ont passé la certif.
Oui, c'est ça. Et tu l'as très justement rappelé, tu as fait la comparaison avec un marathon. Et c'est vrai que personnellement, je n'ai pas de certif, mais je compare ça vraiment à un marathon parce que quand tu es dans le truc, je ne sais pas combien c'est de temps par question, mais c'est très très rapide. Et on parlait un peu en off avant, c'est vraiment pas dans ta langue. C'est quelque chose qui est ultra technique, donc faut avoir quand même appréhendé tout un écosystème et l'ensemble de la question. Faut répondre, et ça sur plusieurs questions pendant un temps quand même assez conséquent. Et c'est vrai que c'est un effort qui n'est pas non plus à négliger. Donc passer des certifs, vous l'avez dit au début, c'est vraiment, une fois que t'es dedans, c'est comme les examens. Une fois que c'est passé, t'as plus envie de te remettre dedans et t'es content que ça soit fini, quoi.
Ouais, c'est pour ça qu'en général, il faut essayer de les enchaîner quand on a pour objectif d'en passer plusieurs. Parce que tant qu'on est dedans, ça va. Si on se relâche, c'est vrai que c'est dur de se remettre en route. C'est vraiment comme un entraînement sportif où tant qu'on a le rythme et qu'on maintient cette routine de travail, ça va. Après, quand on relâche, pour s'y remettre. Et puis même, des fois, c'est dommage parce qu'il y a certaines certifications où il y a toute une partie commune. Et donc, il y a des choses qu'on apprend vraiment par cœur. Et c'est dommage de devoir revenir 6 mois plus tard et réapprendre par cœur quelque chose qu'on avait retenu pour l'examen précédent. Donc, l'idéal, c'est quand même d'enchaîner quand il y en a qui se ressemblent.
Ouais, c'est dommage, sinon... Mais justement, peut-être que vous pouvez détailler quels sont les différents types de certifications, parce qu'il me semble qu'il y en a plusieurs. Donc peut-être que vous pouvez parler de ça.
Il y en a plusieurs, effectivement. Donc à chaque fois, elles sont délivrées par une entreprise, par une techno. Moi, j'ai plutôt des certifs qui sont liés au cloud, donc AWS, HashiCorp et Kubernetes. Voilà, d'une certaine manière, en fait, elles se ressemblent, oui et non, dans le sens où elles font, c'est quoi, c'est à peu près 3 heures, on va dire, pour les AWS et Kubernetes, HashiCorp, elles sont plus courtes, je crois que c'était l'affaire de 1 heure.
Une heure d'examen?
Ouais, une heure d'examen pour les HashiCorp. Là où ça peut être un peu distinct, et Pauline, tu m'aideras sur les autres types de certifs, c'est le fait qu'il y en a qui sont, comment dire, c'est des labs. Tu vois, par exemple, Kubernetes, c'est pas un QCM, c'est vraiment répondre à des questions de cube, et donc ça c'est quand même assez différent à préparer qu'une certif AWS. Alors, depuis peu, la CISOPS, il y a une partie lab, mais sinon pour les autres, c'est quand même des QCM. Oui,
et puis des fois il y a des QCM en arbre. Moi j'ai un historique de certaines certifications où en fonction de la façon dont tu réponds, ça va changer les questions suivantes, et en fait tu peux tomber dans un... Si tu te trompes dès le départ, ça induit les prochaines questions qui ne vont pas être forcément bonnes, et donc tu perds des points aussi comme ça. Donc en fonction, c'est important de se renseigner sur le mode d'organisation de la certification, comment passer. En général, pour chaque certification, il y a un petit document qui est fourni pour expliquer les modalités de passage. Donc c'est important de ne pas arriver et de découvrir, donc de savoir comment on va être testé, quel temps on va avoir par question. pour savoir si, si on peut se permettre de tenir un petit peu plus longtemps sur une question ou s'il vaut mieux passer. En général, il vaut mieux. On a toujours la possibilité de flaguer une question pour revenir à la fin avec le compte-rendu qui nous permet de savoir si il y en a certaines où on n'est pas sûr d'éviter de tout passer à la suite. Donc le conseil que je donne en général, c'est de ne pas rester plus longtemps. Si la première lecture, on n'est pas à l'aise, on la flague et on passe à la suivante parce que potentiellement, celle d'après, elle est super facile et on peut gagner un point rapidement. Donc il y a ça aussi. Et si on voit qu'on est un petit peu en retard, moi ça m'est arrivé où certaines certifs, je regarde le compteur et je vois qu'il me reste plus que une ou deux minutes pour quelques questions. Il vaut mieux utiliser le hasard et répondre un petit peu au hasard si on voit qu'on n'a plus que quelques secondes plutôt que de pas du tout répondre. On est sûr qu'on n'aura pas de points alors que le hasard peut nous aider de temps en temps. Donc il y a quelques petites... toujours se laisser un petit temps à la fin pour repasser sur les questions où on n'a pas eu... on n'était pas à l'aise.
Petit tip aussi, des fois, dans les questions... après, il y a la réponse à des questions précédentes.
Donc ça arrive pas tout le temps. Mais... ouais.
Ah oui, ça c'est les pro-tips.
il faut se lancer dans les certifs pour les couvrir, mais effectivement, il y a des fois où, je pense, voilà, une dernière archicorp, là, où en fait, il y a la réponse qui est proposée dans une des questions. Après, il y a une question précédente, quoi.
Ça, ou alors on se rend compte en répondant à une autre qu'on s'est trompé à deux, trois questions avant, donc on revient pour changer sa réponse.
Smart. Il faut être vraiment toujours, toujours vigilant.
Il y a ça, et aussi la formulation des questions. Surtout avec AWS, où de temps en temps, ils mettent une négation dans la question, ce qui fait que ça inverse complètement la phrase. Donc c'est important de bien lire, d'être attentif aux négations qui peuvent inverser le sens. Et aussi la spécification, les certifs AWS principalement, c'est rare qu'il y ait des réponses complètement absurdes. Donc c'est de l'optimisation souvent par rapport à la réponse. On va demander quel est le plus performant, quel est le plus hautement disponible, quel est le moins cher. Et en fonction de ça, ça change les réponses. Donc bien faire attention à la formulation de la question avant de lire les réponses. Pas parce qu'on voit un mot-clé dans la réponse, on enchaîne et on passe.
Oui. Et le fait que ça soit chronométré, peut-être que parfois on peut se dire aller plus vite au plus simple.
Ouais.
Alors que non, soyez vigilants.
Il faut éviter les raccourcis.
Ouais.
Belle transition. Mais justement, Vincent, toi qui parlais de se lancer dans les certifs, peut-être que tu peux nous parler de comment toi tu t'es préparé et comment tu te prépares peut-être toujours.
Moi, je suis un fervent amateur de la plateforme Udemy, en fait. Et c'est comme ça que j'ai préparé quasiment l'intégralité des certifs. Donc c'est Udemy à la base. Et après, tout ce qui est doc officiel, donc les white papers, la FAQ, le Qualy Developer Guide, c'est essentiellement comme ça. Donc en général, j'avais tendance à faire un cours Udemy. Donc ça, c'est ma manière de faire. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais de le binge-watcher, d'aller très très vite. Parce que ce qui est vraiment, pour moi, important, c'est de définir encore une fois une idée de périmètre. C'est-à-dire quand on arrive sur une certif, ça peut être un petit peu décourageant, par exemple, de découvrir le nombre de services qu'il y a à chaque fois en disant... mais waouh, il faut que j'apprenne tout ça. Et pour moi, ce qui est plus facile, c'est vraiment de le plus vite possible me familiariser avec les acronymes, les services, le type de questions, l'architecture et autres. Donc définir vraiment ce fameux périmètre. Et une fois qu'il est défini, de passer les tests. Donc là aussi, c'était principalement sur Udemy, mais je faisais beaucoup de tests blancs, ce qui me permettait de voir ce que j'avais compris, ce que je n'avais pas compris. Quand on choisit les bons tests, il y a aussi la correction et des liens vers la doc dans les réponses, dans les corrections. Donc du coup, ça me permettait de cliquer, d'aller après aussi surfer, d'aller voir les blogs ou autre. Donc en faisant ça, au fur et à mesure, au début, j'ai mon périmètre qui est un petit peu imprécis, un petit peu flou. Et en fait, je le consolide en enchaînant les tests. Et j'ai fait ça pour toutes les certifs. Donc ça a plutôt bien marché pour moi.
Donc il faut être assidu et curieux. Le petit bonus curiosité d'aller chercher un peu, fouiller dans la doc, c'est intéressant.
Bah après, ça fait un petit peu partie du voyage, tu vois. C'est comme, je sais pas, si je pars en voyage dans un pays étranger, d'accord, je vais avoir peut-être des objectifs de, je sais pas, de d'architecture ou de... Bon, moi, personnellement, c'est grimper des montagnes qui m'amusent, mais tu vois, sur le voyage, bah, y a des petites surprises, des découvertes. Il faut pas hésiter, moi, je pense, à prendre des détours, quoi. Mais là, il y a... Pour moi... Moi, en fait, quand j'ai fait ça, il y avait aussi beaucoup de curiosité parce que je connaissais pas, en fait, ce qui pouvait se faire avec l'informatique. Quand je suis arrivé, j'étais quand même vraiment newbie. Et donc, il y avait un appétit de voir, de découvrir, ah ouais, putain, on peut faire ça, mais c'est trop bien, c'est génial. Et donc, il y a eu des fois où, effectivement, j'ai un peu procrastiné parce que je me suis baladé sur la doc et j'ai un peu oublié les tests. Mais bon, ça a marché.
Je sais pas si on peut appeler ça de la procrastination, mais appelle ça comme tu veux.
De l'errance technique.
Oui, voilà, c'est plus léger.
C'est plus léger, non, mais c'est de fil en aiguille, tu ouvres un onglet, deux onglets, 10 onglets. Enfin, je pense qu'on est nombreux à faire ça. En tout cas, je sais que mon client le fait. Et après, tu vois, de relire tous les onglets au fur et à mesure. C'est un petit peu comment, le lapin d'Alice, tu vois. Tu tires une ficelle et puis en fait, tu as plein de ficelles. Donc, il faut savoir aussi s'arrêter et revenir à l'objectif initial.
Oui, quand même avoir un cadre de compétences pour l'assertif et après quitte à se perdre peut-être plus tard quand tu auras passé.
C'est ça, le dimanche matin.
On n'a pas les mêmes genres de dimanche, mais... Ok. Et du coup, Pauline, par rapport aussi à ton parcours, je sais que tu as passé beaucoup de certifs. Et aussi par rapport à ton rôle que tu as pu avoir dans la formation de la structure, est-ce que tu peux un peu nous en parler? Parce que c'est des approches différentes.
Oui, la structure, on a travaillé sur le fait que il y avait une curiosité aussi de la part des équipes commerciales et RH de découvrir un petit peu ces services AWS, de mieux comprendre pour aussi mieux recruter et mieux comprendre les besoins des clients. Donc on a organisé comme ça des petites formations sur l'heure du midi pour les accompagner sur la préparation de... Alors, à l'époque, la cloud practitioner n'existait pas. Donc, c'était plutôt l'architecte associé qu'on travaillait. Mais il a fallu commencer par les bases, donc expliquer ce qu'est un CIDR. Enfin, on est reparti vraiment du tout début. Mais c'était intéressant aussi de voir qu'en fait, les sujets qu'on considère comme évidents et quotidiens sont assez éloignés pour certains, et donc de redescendre un petit peu, de se dire bon, en fait tout ce qu'aujourd'hui on prend pour acquis, ça l'est pas pour tout le monde, et se réadapter et réapprendre à faire apprendre. Donc c'était intéressant comme exercice
dans les deux sens, en plus.
Ouais, dans les deux sens, voilà. Mais la satisfaction aussi de voir que ils comprenaient, que ça les aidait au quotidien, c'était bénéfique pour tout le monde.
Ah ça doit être ultra satisfaisant. Parce que c'est vrai, pour du coup, être un peu dans ce côté structure et moins IT, il y a tout de suite un peu de décalage, et si t'as pas un minimum de curiosité, ça peut très vite être limite handicapant, parce que c'est des langages ultra techniques que tu maîtrises pas. Parfois tu peux être à l'écart sur certaines, par exemple sur le recrutement, sur certaines compétences. Je pense que c'est vraiment bénéfique d'avoir le spectre, au moins une idée de quoi ça traite.
Oui, c'est super important, mais c'est là aussi où je me suis rappelé qu'en fait, quand j'ai commencé à AWS, tout le vocabulaire, c'était pareil. Savoir que C2, c'est du compute. Enfin, oui, quand tu connais l'acronyme, c'est bon, mais quand tu as juste le nom, c'est pas du tout parlant. Donc, revenir à ce sujet-là, de se dire oui, c'est vrai que, en fait, on apprend vite, mais c'est pas inné. Donc, ça demande un effort, et on travaillait à travers des labs, donc chacun avait son petit compte AWS, et puis on faisait des TP, et on apprenait petit à petit comme ça.
Oui, et puis en plus, si tu pratiques pas forcément, c'est l'enfer, je pense.
Oui, c'est important de pratiquer, c'est important de tester, parce que sinon, ça reste des acronymes, et c'est pas du tout parlant, donc c'est vraiment important de se créer un compte et d'aller tester par soi-même, de faire attention à la facturation quand même, mais c'est important de tester, parce que c'est comme ça, enfin, de mon point de vue, c'est en testant qu'on retient mieux. On peut apprendre, mais si on veut apprendre sur le long terme, que ce soit pas juste pour l'examen, il faut quand même tester. C'est comme ça c'est en faisant des erreurs, en itérant, qu'on retient.
Oui, comme disait Vincent, le fait de faire des tests blancs, je pense que ça aide beaucoup, parce que du coup, t'es dans le concret de l'examen, comment ça se passe, et aussi le truc des corrections, où tu peux revenir et comprendre, c'est vraiment comme les annales du bac. Hein. C'est le bachotage le plus complet. Et c'est comme ça que tu apprends le mieux et que tu retiens, comme tu dis. Parce que l'intérêt aussi, c'est que derrière, tu passes l'assertif et ça t'aide quand même à monter en compétences. Après, du côté technique, c'est pas uniquement t'as ton assertif et... Enfin, j'espère.
Oui, tu vois, on sait que le taux de rétention est généralement largement supérieur. Je crois qu'il est estimé à 70% lorsqu'on fait les choses plutôt que quand on est juste en train de les écouter de manière passive. Donc, c'est vrai que si on a la possibilité de pouvoir poker ce que l'on fait, c'est mieux. Une des alternatives, on va dire, à un mode un peu dégradé, c'est de voir des cours où la personne fait une démo en live. Mmh. Tu vois, je pense aux cours de Marek. La plupart du temps, il y a des labs, il y a des hands-on. Donc du coup, en fait, visuellement, on peut aussi retenir parfois certains schémas, process, tu vois, de mise en place de certaines architectures. Et aussi une autre chose, moi, je trouve qui aide beaucoup, c'est justement les schémas d'architecture avec les petits icônes, les petits pictogrammes. Ça, c'est très précieux, je trouve, pour pouvoir se souvenir, tu vois, d'une logique et après de refaire des liens. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Je sais qu'un joli schéma d'architecture, ça fait presque tout.
Oui, même pendant l'examen, moi, je me rappelle sur certaines questions de schématiser la réponse. C'est-à-dire que quand ils vous disent deux AZ, une instance à tel endroit, à tel endroit, rien que de le dessiner, des fois, en fait, visuellement, on sait que c'est pas la bonne ou que c'est la bonne réponse. Donc vraiment, faut pas hésiter pendant l'examen à griffonner et à tester les choses par rapport à ce qui est proposé dans la question. Visuellement, on répond plus vite que de réfléchir parfois. Est-ce que c'est bon ou pas?
Mais au final, c'est un peu comme n'importe quel examen. L'important aussi, c'est de savoir quelle manière de révision te correspond le mieux.
C'est ça.
Si t'es plus écrit, visuel, peu importe. Oral, t'écoutes des confs, etc. Et je pense que c'est ça aussi le plus important, c'est de te connaître et c'est un travail à faire.
C'est ce que je dis aussi aux nouveaux arrivants chez Revolve. On propose plusieurs possibilités de se former parce que chacun a sa méthode. Il y en a pour qui les cours en ligne, c'est pas supportable. Ils préfèrent lire les FAQ, tester par eux-mêmes. Alors que d'autres, ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui leur explique ça. C'est en écoutant qu'ils retiennent mieux. Donc il faut trouver son modèle d'apprentissage et s'y tenir et de temps en temps tester d'autres choses parce que on évolue aussi et parfois notre méthode d'apprentissage change. Donc il faut à chaque examen retester d'autres possibilités parce que regarder un cours en ligne aussi pendant des heures, au bout d'un moment, on a la tête qui part un petit peu. Donc changer de sujet, prendre un article, tester un peu, revenir sur les vidéos, faut alterner les modèles d'apprentissage.
Oui, et puis aussi peut-être échanger avec ses collègues, c'est ça qui est sympa, c'est quand t'as un collègue qui passe la même certif que toi, échanger, discuter, et c'est comme ça aussi que tu vas pouvoir évoluer peut-être.
Ouais, faire des study groups, c'est bien aussi, ça aide, ça motive aussi, parce que de temps en temps, si on est tout seul à le faire, au bout d'un moment, on peut se lasser. Donc d'avoir quelqu'un qui derrière te pousse un petit peu, allez, on s'y remet... Il y a tel sujet, j'ai pas compris, aide-moi. Et inversement, ça aide à rester dans le bon mindset pour avancer. Et se poser une date aussi. Moi, personnellement, tant que j'ai pas objectifs. De date d'examen, j'avais un peu de mal à me mettre en révision. Donc voilà, je préférais mettre une date, quitte à pouvoir la repousser. Parce qu'on a jusqu'à 48 heures pour déplacer l'examen si on se sent vraiment pas prêt. Mais voilà, moi, je me posais des dates et ça m'obligeait à travailler.
J'allais rebondir aussi sur le fait de travailler en study group. Ça aide à respecter son engagement envers soi-même, puisque finalement, on a aussi un engagement envers l'autre. Et parfois, en fait, c'est un petit peu ça qui peut être difficile. C'est de, tu parlais de marathon, il y a un aspect d'être persévérant, de ne pas lâcher l'affaire. Et donc, effectivement, quand on est seul, il peut y avoir cette lassitude, cet abattement. Alors que quand il y a quelqu'un, ben, finalement, voilà, ça peut être sympa, quitte même à faire de l'autodérision, des blagues sur le fait que j'ai rien foutu aujourd'hui, mais bon, demain, je vais faire mieux. Mais
il y a un petit peu de compétition, ça aide aussi.
Voilà,
parfois.
Un petit peu de challenge, là, c'est une épice qui peut effectivement favoriser le fait de se tenir à ce à quoi on s'est engagé.
Non, et puis en plus, le fait que ça soit dans le monde professionnel, c'est vrai qu'il n'y a pas dans tous les métiers des formations comme ça qui te permettent de te remettre dans le bain au niveau... du learning, quoi, apprendre, monter en compétences. Donc c'est un travail qui est peut-être pas non plus pour tout le monde. Donc c'est important, je pense, d'avoir un soutien et de se dire qu'on n'est pas tout seul et que ça fait partie d'une culture d'entreprise et qu'il y a tout un univers autour.
Et puis pas se démotiver non plus quand on la rate, parce que ça peut arriver. C'est agaçant quand il manque que quelques points, de se dire qu'il va falloir refaire tout l'exercice pour quelques points supplémentaires. Mais au contraire, il faut passer la déception du moment. Il faut plutôt repenser à l'examen, quels sont les sujets sur lesquels on n'a pas été à l'aise, les questions qui nous ont posé problème, réorienter les révisions par rapport à ça. En général, AWS, alors je ne sais pas s'ils le font encore, mais ils fournissaient aussi le taux de réussite par sujet. Donc regarder sur quel sujet on a eu le plus de difficultés ou le plus d'erreurs et réorienter les révisions sur ces sujets-là et la repasser rapidement pour éviter de réapprendre des choses qu'on avait apprises.
Il y a un truc aussi qui me paraît important de préciser, c'est le fait de croire que c'est possible. Tu vois, dans ce que tu disais, ça me donne envie de parler, tu vois, de la confiance en soi et de la confiance dans le fait de lancer l'examen. Je parle juste de mon expérience, c'est manière de dire que quand j'ai commencé les certifs, j'avais pour objectif dans l'année d'en avoir les deux associates, peut-être les trois. Et alors si j'avais une pro, ça y est, c'était gagné, quoi. Et puis en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte, c'est complètement possible. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai pu, je pense, de manière assez spontanée, ben, entrer dans une dynamique très efficace pour enchaîner les certifs, parce que finalement, ben, je suis arrivé au stade où, ok, si j'investis de mon temps, de mon énergie, de mes ressources, de cette manière-là, ben, ça va fonctionner, donc du coup, il n'y a plus qu'à. Mais là-dessus, il y a vraiment ce truc de, ben, d'itérer, tu vois, tu parles d'itération, de se lancer, d'essayer, ben, de voir si ça marche, et puis après de continuer, quoi. Tu disais aussi de, sur le fait de choisir une date. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de, j'ai jamais commencé à travailler une certif sans savoir que, par exemple, j'allais avoir fini le cours dans 10 jours. Parce que dans ma manière de fonctionner, je trouve que c'est très compliqué de se lancer dans un projet qui doit durer du temps sans justement que celui-ci ne soit déterminé. Je dis autrement, si j'ai un cours Udemy de 25 heures, bien, bon, moi, je mets la vitesse x2 sur les cours, hein. Mais tu vois, je me disais, OK, ça fait à peu près 3 à 4 heures par jour, tac, tac, OK, dans 8 jours. Allez, dans 10 jours, j'ai fini mon cours. Je m'en réserve 4 peut-être pour passer des tests et puis après je tente la certif, quoi. Donc il y a à la fois définir pour moi une date de passage certif, mais aussi il y a définir une période de temps.
Ouais, estimer le temps nécessaire pour la préparer en se connaissant aussi.
Ouais, pour éviter de s'enliser.
À la même vitesse. Ouais.
Il y a tout ce côté, je pense que ça dépend énormément du tempérament. Typiquement, je serais le genre de personne à me mettre une date et 48 heures avant me dire « Oh non, en fait, je suis pas prête », alors que je serais prête. C'est vraiment une question de confiance en soi. Et c'est pour ça que l'accompagnement, je pense, le fait que tu passes pas tout seul. Mais Pauline, justement, au début, tu disais qu'on le passait pas pour l'entreprise et que c'était personnel. Je suis 100% d'accord avec toi, mais le cadre entreprise te permet aussi de te mettre un challenge et de te motiver quand même à la passer, parce que c'était juste pour soi. Il y aurait peut-être un peu plus de stress et peut-être plus d'appréhension, donc... un recul certain, je pense.
Et puis, il faut aussi rappeler qu'on n'est pas tous pareils et un examen qui est difficile pour quelqu'un n'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, il n'y avait que 5 certifs AWS, mais la DevOps Pro, pour moi, elle était beaucoup plus difficile que l'architecte, alors que pour d'autres, c'était l'inverse. Et donc, il ne faut pas forcément trop écouter aussi ce qui se dit autour, se faire un peu confiance et tenter. De toute façon, il vaut mieux essayer que de ne pas essayer. Au pire, on la rate et on recommence. Donc,
surtout qu'on peut avoir la chance d'avoir effectivement les certifications qui sont financées par la boîte, donc bon, sans dire allez-y dès le début, quoi. Mais quand même, c'est aussi pas notre propre portefeuille qui est en jeu directement. Enfin, si je dis ça, c'est parce que j'ai payé moi mes propres certifs, donc tu vois, je trouve ça super chouette d'être dans une boîte qui finance en fait et la formation et le passage de certif, quoi. C'est, voilà, moi je pense qu'il faut en profiter, en bénéficier.
Oui, les choix des termes sont importants.
Voilà.
Mais justement, peut-être que vous pourriez nous expliquer le processus AWS pour passer une certification, pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient en passer une.
Oui, alors tout se passe sur AWS Training. Donc avec un compte personnel, créer un compte sur AWS Training pour choisir la certification qu'on veut passer. La première chose à faire, c'est, comme on a l'avantage de passer l'examen en anglais, c'est qu'on a le droit à 30 minutes supplémentaires maintenant. Donc, je crois qu'il faut les demander avant de prendre une certification. Donc, réserver le fait qu'on a le droit à 30 minutes de plus parce qu'on la passe en France. Et ensuite, choisir la date d'examen par rapport à la certification qu'on souhaite, y rattacher les 30 minutes. Et ensuite, c'est parti. Il suffit de... Maintenant, tout se fait en ligne. Alors qu'avant, enfin, on peut encore, je pense, le faire dans des centres physiques, mais on a la possibilité aussi de les faire en ligne.
Oui, tout à fait. On peut le faire les deux. Pour les 30 minutes, c'est le plus ESL, je crois. Tu choisis en fait l'option au début, et maintenant, en fait, il la valide instantanément. Donc, ça te permet de récupérer les 30 minutes extra.
Qui sont importantes.
Qui peuvent, ouais, sur les pros surtout, ouais, puisque vu la taille des questions et la taille des réponses, il y a des fois, on met 2 minutes juste à être arrivé au bout, quoi. Il y a aussi, quand on est à distance, du coup, il y a un petit cérémonial, quoi, à préparer, où il faut être seul dans sa pièce, ou prendre des photos à gauche, à droite de sa pièce d'identité, se faire un selfie. Il faut montrer qu'on n'a pas de montre connectée ou de Google Glass. On m'a demandé d'enlever mes lunettes pour vérifier. Non, j'en ai pas. Et après, voilà. Après, il n'y a plus qu'à.
Oui, non, mais c'est ça aussi le fait, je pense, qui a un peu changé, le fait que ça soit tout en ligne maintenant. Et même dans le processus de révision, le fait que... Enfin, je sais pas s'il y avait des centres de révision avant, ou c'est vraiment toi qui fais tout seul, et depuis toujours, c'est toi qui gères tes certifs.
Bah, après, il y a les formations officielles, puisqu'on est aussi training partner, donc on propose des formations officielles, mais il n'y a pas de formation obligatoire avant de passer un examen. Dans certains cas, il y a certains éditeurs qui obligent à passer une formation avant de passer la certification. Donc ça, il faut bien se renseigner avant de passer une certif, savoir s'il y a un cours obligatoire avant. Mais pour AWS, c'est pas obligatoire. On peut la préparer de son côté et passer l'examen ensuite.
Ok, et du coup, la validité d'une certification, elle n'est pas éternelle ?
Non, elle a un temps donné et ça dépend de l'éditeur. AWS, maintenant, c'est 3 ans. HICorp, je crois que c'est 2 ans. Mmh. Et Cube aussi, je crois.
Cube, c'est 3 ans, il me semble. Ouais.
Mais c'est ça qui est intéressant, justement, et qui n'est pas pour toutes les formations dans tous les milieux du travail, entre guillemets. C'est que dans l'IT, les formations, elles sont valables un certain temps parce que la technologie évolue, les certifs évoluent, et en ce sens, je trouve que c'est vraiment intéressant, en fait, parce que tu restes toujours au niveau, dans la mesure où tu passes les certifs, bien sûr, mais il y a ce côté monter en compétences et update, quoi. Et c'est ça qui est intéressant aussi, je pense.
Oui, parce que il y a des nouveaux services qui sont constamment rajoutés, il y a des limites aussi qui changent, donc là, au bout de 6 mois, on dit « Ah oui, mais j'avais appris ça, mais maintenant on fait autrement. » Donc ouais, tout à fait, c'est obligatoire, enfin, à mon avis, de faire de la veille constante pour rester à la page.
Et faire attention aussi, parce que les certifications évoluent pas forcément aussi vite que les services, donc ce qu'on apprend à l'instant T n'est pas forcément la réalité de la certification. Des fois, elle est un petit peu en retard et le service a évolué entre-temps, ce qui peut changer la réponse. C'est déjà arrivé, donc faire attention aussi à la temporalité de la question et du service en question.
Oui, ça peut entre 3 mois et 6 mois, je crois, des fois, donc ouais, ça peut être un peu long.
Oui, y a tout un monde entre 6 mois.
Ouais. Mais moi, j'ai un peu coutume de dire que passer une certif est un exercice de style en soi, donc du coup avec des codes, avec des règles, avec une manière de faire, tu vois, quand t'arrives, Pauline mentionnait le fait de commencer à étudier le study guide, tu vois, d'avoir donc du coup la méthode après, où est-ce que je vais travailler, où est-ce que je vais passer mes tests, comment je vais m'organiser, de quoi il y a besoin. Quand il y a 4 questions, a priori, il y en a toujours une qui est quand même un petit peu, comment dire, à côté de la plaque.
Moins vrai.
Voilà, moins vrai. Après, il y a celle qui est un peu bancale, puis après, il y a les deux, il y en a une, du coup, il y aura une limite ou une optimisation, comme le disait Pauline tout à l'heure, mais il y a vraiment un truc de rentrer dans la dynamique du fait de passer une certif qui n'est pas de devenir un boss, on va dire, sur la techno AWS. Tu vois, tu le disais au début, mais passer une certif, c'est une garantie de validation d'un état de connaissance à un instant T, mais ce n'est pas une garantie de seniorité ou d'expertise absolue sur un sujet, quoi. Ça ne va pas te garantir, tu vas pouvoir gérer une prod ou implémenter une solution ou de suite avoir le bon recul. Donc ça, pour moi, c'est vraiment très important de le garder en tête au moment où on travaille, c'est est-ce que je suis en train d'essayer de monter en compétence uniquement sur la techno ou est-ce que je veux passer une certif. Voilà, pour moi, ça ne veut pas forcément dire que c'est mutuellement exclusif, mais c'est quand même un petit peu distinct, en tout cas dans ma manière, moi, de le voir.
Non, mais dans tous les cas, c'est sûr que c'est un premier pas vers une montée en compétence certaine qui peut justifier d'un certain niveau de connaissance, mais pas de compétence. Et ça, c'est une évidence.
Tout à fait.
Oui, clairement, c'est pas parce que on a passé la certif qu'on est capable d'aller gérer la production d'un client par rapport à l'examen. Il faut vraiment faire la différence et pas l'oublier. C'est pas parce qu'on a une certif qu'on peut se lancer. il faut aussi. C'est vraiment le quotidien, l'expérience qui compte. C'est pas parce qu'on n'a pas de certif qu'on n'est pas bon non plus.
Tout à fait. Tu parlais de tremplin tout à l'heure, Pauline. Tu vois, ça me fait penser au. T'as pas de job, t'as pas d'expérience, donc on te prend pas. Mm. Mais si on te prend pas, t'auras pas d'expérience. Et en fait, la certif, pour moi, ça permet justement d'être pile au milieu des deux, puisqu'effectivement, un client sera, à mon avis, plus susceptible de prendre quelqu'un s'il a une certif, je sais pas, on va dire sécurité, s'il a besoin de sécurité. Mais peut-être que soi-même, on n'a pas encore eu la chance d'être positionné sur un poste sécurité. Donc, du coup, passer une certif sécurité, ça valide cet état de connaissance, ça montre, comme tu disais, tu vois, la motivation, les objectifs, et ça permet, en fait, du coup, de faire ce premier pas.
Oui, c'est de montrer l'investissement qu'on a mis en place pour se donner les moyens d'atteindre son objectif personnel, à savoir de tendre vers un sujet.
Exactement. Et écoutez, si vous voulez chacun conclure avec peut-être un petit retour d'expérience, un pro-tips ou faire une synthèse de ce que vous avez dit, ce qui vous semble essentiel, si on veut passer une certif.
Genre là, en synthèse, pour moi, il y a, bon, c'est un petit peu là ce que je viens de dire à la fin, mais c'est vraiment de se dire l'exercice est de passer une certif. C'est pas là de devenir un boss, par exemple, à WS, parce que sinon, chez moi, en tout cas, ça pourrait susciter une forme d'inhibition, de procrastination, par peur de l'échec, parce que il faut savoir tout ça par cœur, ça va être compliqué. Donc il y a plutôt ce phénomène de, voilà, d'itération, d'apprendre au fur et à mesure, de voir, tiens, tel service, ok, ça s'utilise dans la certif de cette manière-là, et puis de mettre une brique étape par étape. Et pour faire ça, à mon avis, c'est hyper important dès le début d'être prêt, en tout cas de se préparer. Donc savoir qu'est-ce que ça implique finalement de passer une certif. Je disais tout à l'heure, je ne commence pas à réviser une certif si je ne sais pas que je vais pouvoir la finir dans un, je sais pas, on va dire en 15 jours ou un mois, quoi. Donc, surtout pas le laisser traîner. Donc il y a cette idée d'être prêt, et puis après, ce serait courage. Ce serait, voilà, garder courage et puis aller profiter du chemin. L'important, c'est pas forcément la destination.
Et s'égarer un peu parfois.
Et s'égarer un petit peu parfois, surtout le dimanche matin.
Et pour moi, je pense que c'est déjà, si c'est la première certif qu'on passe, apprendre à se connaître, savoir comment on apprend le mieux, tenter des choses et se fixer une tentative, d'essayer, de voir ce que ça donne. Parce que tant qu'on n'a pas essayé, on peut parfois se faire une montagne et puis finalement, c'est pas si difficile que ça. Donc de tenter et de s'adapter en fonction du résultat pour être meilleur la fois d'après.
Bah écoutez, je pense que c'est un super mot de la fin. Merci beaucoup Pauline, merci beaucoup Vincent.
Merci Eva.
Merci.
Et on se dit à très vite sur le podcast de Devoteam Revolve.